Les quatre saisons.
La politique est un cycle.
C'est le virus qui est maître du temps.
Une symphonie perpétuelle de déclarations, de promesses.
That's not Michael Jackson, hein?
Les échecs et les trahisons les plus douloureuses.
Ce sont les aléas de la politique.
Y rencontrent la gloire et les espoirs les plus vifs.
Je jure fidélité au roi.
Aussi sûrement qu'après l'hiver,
dehors.
Reviennent les beaux jours.
Dehors, dehors.
Le Vivaldi, c'est la fin de la Belgique.
Baptiste Tupin, Imad Messoudi.
Bonjour Baptiste.
Bonjour Imad.
Cette semaine, on s'empare d'un dossier brûlant,
celui du port de signes convictionnels dans la fonction publique.
Un débat que les politiques francophones n'ont jamais voulu affronter,
alors qu'il s'impose régulièrement dans l'actu depuis plus de 20 ans.
Les quatre saisons. La politique belge racontée à l'ère de la Vivaldi.
Vous savez qu'on est un pays compliqué, hein ?
Printemps.
On se doutait bien au moment de cette annonce.
L'ASTIB pratique donc de la discrimination à l'embauche.
Que cet arrêt,
suite à la plainte d'une jeune femme qui n'avait pas été retenue pour un emploi,
secouerait le printemps politique.
Vous allez voir que cette affaire divise profondément la classe politique.
Selon le tribunal du travail de Bruxelles, l'ASTIB ne peut plus interdire le port du voile à ses employés.
La plaignante est en fait une femme de confession musulmane qui se disait discriminée.
L'entreprise publique ne compte pas contester cette décision.
La société bruxelloise de transport affirmait ne pas vouloir faire appel de cette décision judiciaire.
Je suis entièrement satisfaite et soulagée.
Une victoire symbolique aux yeux de la plaignante.
Cette décision historique de la lutte contre les discriminations faites à l'endroit des femmes qui arborent un foulard permettra à des centaines de femmes d'accéder au marché de l'emploi.
Mais une épine dans le pied du gouvernement bruxellois forcé de prendre attitude.
Le gouvernement bruxellois va se saisir de ce dossier très délicat.
Et on savait, depuis début mai, qu'il n'y a qu'une chose qui met tous les partis d'accord à ce sujet.
Un débat important et complètement légitime.
Je pense que c'est un débat important, qui crispe.
C'est un débat qui devient très compliqué.
À part ce point commun, le débat est loin d'être serein, comme l'exprime le président de Défi.
Selon nous, n'est pas un abominable suspect de fondamentalisme islamiste, celui qui promeut l'usage de ces signes dans les services publics, et à contrario, n'est pas non plus un abominable conservateur xénophobe, celui qui, pour de bonnes raisons de neutralité, en promeut l'interdiction. Et si on est déjà d'accord là-dessus, c'est pas mal.
Alors cette semaine, on s'est demandé si les partis politiques allaient saisir l'opportunité de cette décision de justice pour aller jusqu'au bout du débat sur la neutralité.
Certains disent que c'est un bête bout de tissu, mais non.
Écolo n'est absolument pas communautariste.
S'ils sont prêts à prendre une décision sur le port du voile dans la fonction publique.
C'est pas la question du voile, hein.
Ou si, une fois encore.
C'est la question de la kippa, c'est le signe religieux ostensible catholique.
Cette discussion serait soigneusement reportée.
C'est un débat sans fin.
Jusqu'à la prochaine polémique.
On va pas pouvoir continuer 15-20 ans avec cette espèce de lâcheté générale.
Parce que cette question de la neutralité, elle se pose depuis un bout de temps. Cette affaire de l'ASTIB a débuté il y a déjà 6 ans.
C'est l'histoire d'une jeune femme qui cherche du travail et en décembre 2015, elle postule à l'ASTIB.
Mais il n'y a pas qu'à l'ASTIB que la neutralité a été mise en cause.
Depuis 2 ans, Fatima suit un bachelier en informatique de gestion.
On a trouvé plusieurs exemples ces dernières années.
Il m'a dit, il faut enlever le voile.
Comme pour ses élèves majeurs de l'enseignement de promotion sociale.
Et devant la porte, donc je peux même pas rentrer dans l'établissement avec mon voile.
Pourtant, à entendre les partis depuis début mai, ils ont tous un avis. Pour ou contre le port de signes religieux dans l'administration. Denis Ducarme, comme son parti, le MR, est contre.
Quand on représente l'État, si on veut représenter l'ensemble, eh bien, on n'affiche pas ses préférences, qu'elles soient philosophiques, politiques ou religieuses.
La coprésidente d'Écolo est pour.
Qu'est-ce qu'il y a de plus émancipateur que le travail ? Il y a déjà pas mal de barrières pour l'emploi des femmes. Il ne faut pas que le foulard en soit une supplémentaire.
Au CDH, on sait que Georges Dalmagne est contre.
À travers le voile, il y a aussi une revendication politique radicale qui ne veut pas de notre modèle de société, ne veut pas de nos valeurs et les combats. Et c'est ça qui m'inquiète.
Mais son président de parti a expliqué clairement sur les réseaux sociaux que ce n'était pas l'avis du CDH. Le président de Défi est contre.
Nous avons déposé une proposition pour inscrire la notion de laïcité dans la Constitution, ce qui donnerait le fondement juridique nécessaire à notre avis pour éviter à l'avenir ce genre de polémique.
Dans ce débat, seul le PS est resté étrangement muet. La question divise donc clairement le paysage politique francophone, parfois jusqu'au cœur des partis. Mais est-ce une raison suffisante pour ne pas prendre ce débat politique à bras-le-corps aujourd'hui ?
Certains disent que c'est un bête bout de tissu, mais non.
Il y a une lâcheté un petit peu générale.
Et qu'est-ce qui laisse penser au parti que s'il ne tranche pas maintenant, ce sera plus facile dans quelques années ?
C'est un débat sans fin.
C'est un débat passionnel.
Et comme chaque semaine, on va donc approfondir ce sujet avec toi, Imad. Et aujourd'hui, on accueille également Caroline Sagesser. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au CRISP, docteur en histoire et une observatrice très attentive de toutes ces thématiques. Merci d'être avec nous. Avant toute chose, on va peut-être prendre le temps de faire un point théorique, parce qu'il y a des notions assez précises dans ce débat, des concepts qui peuvent parfois nous échapper. Que signifie la laïcité ? Que signifie la neutralité ? Et l'opposition entre neutralité exclusive et neutralité inclusive, deux termes qu'on entend énormément ces dernières semaines.
Eh bien écoutez, je vais commencer par vous décevoir, parce que ces notions ne sont pas aussi précises, en particulier juridiquement, qu'on aimerait le croire. D'ailleurs, un ouvrage comme le Dictionnaire du droit des religions, publié en France, rabat une notion sur l'autre, pardon, et a une seule entrée pour la laïcité et la neutralité. Maintenant, depuis une vingtaine d'années que ces thématiques sont de nouveau abondamment discutées en Belgique, on a adopté, je dirais un peu de façon conventionnelle, l'idée que la Belgique est un État neutre alors que la France est un État laïque. Qu'est-ce que ça signifie donc ? Ça veut dire qu'en France, on a un État qui non seulement traite toutes les convictions et tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions, sur un plan de stricte égalité, mais qui en plus s'interdit toute intervention vis-à-vis du religieux. L'État français ne reconnaît ni ne subsidie aucun culte, en tout cas c'est la théorie. En Belgique, nous avons un autre système, né d'un compromis historique en 1830, et avec ce système, l'État est également neutre et il traite toutes les convictions et tous les croyants sur un pied d'égalité, mais il ne s'interdit pas d'intervenir en leur faveur et on a un système de reconnaissance et de financement des cultes. On a aussi par exemple des cours de religion organisés dans les écoles. Donc voilà pour la différence entre la laïcité et la neutralité. Dans les deux cas, c'est traiter tout le monde, quelle que soit sa conviction, de la même façon, mais dans le cadre d'un État laïque, il y a en plus un impératif d'abstention dans le chef de l'État. Alors maintenant, cette neutralité, on la qualifie depuis quelques années tantôt d'exclusif, tantôt d'inclusif. Ça veut dire simplement, quand il s'agit de la laïcité exclusive, qu'on va dire que l'État est neutre, que la fonction publique est neutre et que cette neutralité va jusqu'à s'imposer à l'apparence des agents de la fonction publique. Et donc en clair, en laïcité exclusive, on interdit le port de tout signe convictionnel. En laïcité inclusive, au contraire, on pense que la neutralité de la fonction publique, eh bien, c'est une question de neutralité du service et que l'apparence des agents ne doit pas nécessairement être strictement neutre et que cette neutralité résulte donc davantage de l'inclusion de différents types de fonctionnaires, y compris dans leur apparence, que dans une stricte neutralité, dans un modèle unique de fonctionnaires.
Les termes du débat sont maintenant bien définis. Parlons de la STIB. Cette décision du tribunal du travail force donc la STIB à passer de la neutralité exclusive à la neutralité inclusive. Quels enjeux vous voyez autour de ce changement ?
Alors c'est un enjeu important pour la STIB le plus gros employeur bruxellois, une entreprise qui était fière de sa politique d'ouverture, de diversité au niveau du recrutement, donc c'est certainement un coup dur.
Exemplaire aussi souvent.
Tout à fait,
ouais,
donc c'est
prix, hein.
Un coup dur pour la direction de la STIB. Alors la décision n'est pas finale puisqu'il y aura peut-être un appel, on sait que le dossier est sur la table du gouvernement bruxellois, mais cette décision une fois de plus repose cette question de la neutralité de la fonction publique et en particulier de la fonction publique régionale bruxelloise, parce que dans la région de Bruxelles, cette question se pose sans doute avec plus d'acuité que dans les deux autres.
Et vous avez été étonné de l'ampleur qu'ont pris les débats ces dernières semaines depuis le 3 mai ?
Écoutez, non, je crois que c'est une question vraiment très émotionnelle. Je crois que de part et d'autre, on est extrêmement attaché à des revendications d'inclusion d'un côté, en particulier des femmes musulmanes, puisqu'on sait bien que quand on parle de signes convectionnels, on parle essentiellement, si pas exclusivement, du foulard islamique. Et puis de l'autre côté, on a des partisans de la neutralité qui insistent vraiment pour qu'il n'y ait pas de signes convictionnels dans la fonction publique. Et en vérité, à Bruxelles, je crois que la situation, c'est que nous avons, je pense, que les deux plus grands groupes convictionnels dans la région, les gens qui sont le plus attachés fermement à une conviction ou qui la pratiquent s'agissant d'une religion, ce sont d'une part les musulmans, et je dis parfois avec un peu d'humour les mécréants, mais disons les laïcs. Et donc ces deux groupes ont des idées assez différente sur cette question de la neutralité de l'État et du port de signes convictionnels, et il est extrêmement difficile de les réconcilier, y compris au sein de certaines formations politiques.
Quoi qu'il en soit, la STIB, elle a décidé donc de ne pas faire appel de cette décision de justice après une bataille politique au sein du comité de gestion avec Groen, Écolo et PS d'un côté, la direction de la STIB et Défi de l'autre. Donc le dossier va atterrir sur la table du gouvernement bruxellois qui doit normalement statuer dans les 20 jours. Est-ce que vous pensez que cette question du voile dans les entreprises publiques, elle peut mettre à mal la majorité bruxelloise? Elle peut la diviser puisqu'en son sein, il y a Défi et l'OpenVLD qui semblent assez contre cette idée d'aller vers une neutralité inclusive.
Ah, je pense que ce dossier a déjà clairement divisé la majorité, et à Défi et l'OpenVLD, on peut sans doute ajouter une partie du Parti Socialiste. Donc oui, la majorité est divisée. Va-t-elle exploser sur ce dossier? À ce stade, je ne pense pas. Je ne vois pas très bien non plus quelle majorité de rechange on adopterait. Alors, on va voir ce que le gouvernement va décider. Aller en appel est peut-être une option parce qu'elle ne préjuge pas du fond et qu'elle permettrait d'obtenir une décision de justice consolidée, quel que soit le contenu du futur arrêt de la Cour d'appel.
C'est une façon de ne pas décider, de s'en remettre à la justice et puis on verra ce qui se passe.
On sait que c'est compliqué. L'accord de gouvernement régional bruxellois est muet en la matière. Est-ce que nous sommes dans les conditions pour ouvrir ce débat au Parlement bruxellois, pour permettre aux parlementaires de se déterminer en toute indépendance, hein, on pourrait dire voilà, c'est une question éthique, chacun va pouvoir voter selon ses convictions. Je ne suis pas sûr que le moment soit vraiment favorable à cela, mais si pas maintenant, quand? Un jour ou l'autre, il faudra bien effectivement cesser de faire l'économie de ce débat de fond.
La sortie de crise peut s'inspirer de ce qui s'est passé chez Actiris en 2015. Il s'agissait alors donc de 3 employés qui avaient refusé de retirer le foulard suite à l'adoption d'un nouveau règlement de travail. Un règlement de travail qui avait été mis sur pied 2 ans plus tôt et qui, lui, interdisait l'affichage de préférences religieuses, philosophiques ou politiques. Le tribunal du travail, alors, en 2015, avait donc condamné Actiris pour discrimination et, finalement, Actiris avait décidé de ne pas faire appel. Pourquoi? Que s'est-il passé? J'ai posé la question à Grégor Chapelle. Il était jusqu'à ce lundi, 31 mai, le patron d'Actiris. Il était à l'origine du changement de règlement de travail. Il se dit d'ailleurs à titre personnel en faveur d'une neutralité exclusive et il nous explique ce qui s'est finalement passé en 2015, pourquoi Actiris n'est pas allé en appel.
Il y a eu pas mal de contacts politiques pour prendre une décision la plus collégiale possible. Et le comité de gestion a finalement décidé de ne pas aller en appel pour une raison toute simple, c'était qu'il y avait 2 cas de figure. Soit nous gagnions devant la cour d'appel, mais alors, comme en fait l'appel n'était pas suspensif, et qu'on s'attendait à ce que ça prenne 1 an ou 2, on s'attendait à ce qu'il y ait d'autres travailleuses qui portent le foulard, et on s'est projeté dans une situation où on aurait une douzaine de collaboratrices qui porteraient le foulard. On s'est dit, ben, si on gagne, on va pas licencier 12 personnes parce qu'elles portent le foulard. Et si c'était pour perdre, alors ça servait à rien que la cour d'appel confirme une décision qui ne nous satisfaisait pas. Les clivages identitaire que l'on vit aujourd'hui entre une identité laïque très forte et très défensive et une identité religieuse très forte également et qui défend aussi sa communauté dont on sait qu'elle est victime de discrimination à l'embauche. Je pense que ce clivage identitaire était moins fort à l'époque, même s'il était déjà là très fort.
Caroline Sagesser, il rejoint un petit peu ce que vous venez de dire entre les 2 blocs ici à Bruxelles. Vous pensez qu'une sortie de crise est envisageable pour la STIB, ou est-ce que, comme vient de l'expliquer Grégor Chapelle, l'atmosphère est trop compliquée?
Ah, il faudra bien sortir de la crise d'une façon ou d'une autre. Je crois que du côté de la STIB, même si on a été surpris douloureusement par le jugement, on a déjà entrepris cette sortie de crise puisque la STIB travaille à un nouveau règlement plus inclusif sans aller vraiment vers l'autorisation, d'après ce que j'ai compris, de tous les signes convictionnels, puisqu'on pense par exemple à une forme d'uniforme qui permettrait de décliner un couvre-chef peut-être aux marques de la société. Donc en tout cas, on est en train de réfléchir au débat. Je pense qu'on n'est pas tout à fait dans le même cas de figure que dans le dossier Actiris, parce que dans le dossier Actiris, j'ai l'impression que la plupart des commentateurs et les conseils de la société avaient envisagé effectivement que l'appel confirme certainement le jugement, puisqu'on était dans un cas où le règlement de travail avait été adopté postérieurement au recrutement des employés, donc elle ne pouvait pas en avoir connaissance au moment de leur entrée chez Actiris. Ici, dans le dossier de la STIB, c'est différent. Je pense que les conseils ont plutôt envisagé qu'il y avait de bonnes chances que le jugement soit réformé en appel, donc on n'est pas forcément exactement dans la même situation. Mais effectivement, quelle que soit la solution donnée au dossier STIB, il y a une décision générale à prendre en ce qui concerne la fonction régionale la fonction publique régionale bruxelloise.
Et qu'est-ce qui explique que ce débat il est si compliqué à mener, notamment dans un parti comme le Parti Socialiste qui pour l'instant se tait dans toutes les langues? Qu'est-ce qui fait que c'est tellement difficile aujourd'hui?
Je crois que c'est une question particulièrement douloureuse pour la gauche, pas seulement pour la gauche en Belgique, pour toute la gauche, parce que vraiment il y a là un clash, un conflit entre deux axes structurants de cette gauche. D'une part, il y a effectivement la laïcité, voire même l'anticléricalisme, le fait que la gauche a cru à l'émancipation des individus par leur éloignement des dogmes et de la religion. Et puis d'un autre côté, c'est aussi dans l'ADN de la gauche d'être inclusif, de favoriser l'accès à l'emploi de tout le monde, y compris des descendants de l'immigration. Donc comment réconcilier ces deux choses, c'est quelque chose de très douloureux.
Et c'est particulièrement douloureux ou plus compliqué dans un climat déjà tendu comme aujourd'hui, où on sent que parfois les identités sont exacerbées.
Oui, c'est évident que le climat n'a fait que se détériorer depuis 2001, au fur et à mesure que toute une série d'événements sont venus compliquer les relations entre citoyens de différentes croyances et traditions, et qu'effectivement, des craintes ont renforcé les préjugés de certains individus, c'est certain.
On a quand même du mal à comprendre comment, pourquoi il ne s'est rien passé depuis 2015. Pourquoi, au niveau bruxellois, au minimum, vu la décision du tribunal, il n'était pas très compliqué de s'attendre à ce qu'il y ait d'autres décisions de ce type-là pour d'autres OIP, d'autres organismes publics bruxellois. Comment on explique cette tête dans le sable qui est incompréhensible et qui au final fait qu'on est dans une situation aujourd'hui très compliquée pour tout le monde?
Effectivement, mais dans ce dossier, on s'est dit, voilà, on a un jugement qui, tel quel, je parle du jugement concernant Actiris, tel quel est insuffisant pour faire jurisprudence, donc voilà, on va laisser faire en espérant peut-être qu'il n'y en ait pas d'autres. Et après tout, pendant quelques années, il n'y en a pas eu. Mais c'est évident que c'est une politique de l'autruche, comme vous le dites très bien, et qui a ses limites.
Alors, le gouvernement bruxellois aura-t-il la force ou le courage, la possibilité même de crever l'abcès autour de cette question? On restera très attentif, évidemment, à ce dossier dans les semaines à venir, en tout cas jusqu'au 25 juin, puisque c'est environ vers cette date-là que le gouvernement devrait se décider. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode des 4 saisons. Et merci beaucoup, Caroline Sagesser, d'être venue avec nous pour commenter cette actualité.
Avec grand plaisir.
Salut.
Les 4 saisons, un podcast de Baptiste Tupin et Imad Messoudi, mis en musique par Jérémy Boquet.